BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
C'est les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de nos logements, de notre immobilier. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'IMO. Le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers. Ça peut être des conseils, ça peut être des coups de gueule. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un coup de cœur pour les panneaux solaires. Mais pas vraiment pour les panneaux solaires, mais pour nous, Français. Parce que ça y est, on se met à comprendre le fonctionnement des panneaux solaires, à apprécier aussi la rentabilité sur nos factures d'énergie. On verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Et forcément, c'est la rentrée. Il fallait qu'on en parle. Où en est ce marché de l'immobilier existant? Est-ce que ça va se reprendre? Est-ce que c'est le dernier moment où ça va se reprendre avant une année électorale qui traditionnellement marque un petit coup d'arrêt quand même sur le marché de l'immo? On verra ça dans quelques instants. Mais d'abord, c'est donc l'heure du pro de l'immo.
Les experts de l'immo, le pro de l'immo.
Et on est en ligne avec Romain Martin, le cofondateur de Murphy Solaire. Bonjour Romain.
Bonjour.
Mais je le disais, on va parler panneaux solaires. Bah évidemment, après un été caniculaire du soleil partout, j'imagine que ça a quand même aussi porté un peu le business. Là, ce que vous vouliez témoigner à l'antenne de BFM Business et des experts de l'IMO, bah c'était l'affect enfin des Français pour les panneaux solaires.
Oui, exactement. En fait, on entend beaucoup, quand on regarde les informations, que ça y est, le solaire, il n'y a plus d'aide publique, que c'est la fin du solaire, etc. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est vraiment l'exact opposé, puisque maintenant, les produits sont arrivés à maturité technologique et grâce à l'autoconsommation, en fait, on retrouve de plus en plus de rentabilité et surtout de contrôle sur ces consommations. Donc, on a de plus en plus de clients qui nous expliquent qu'ils voilà, ils veulent être moins dépendants des variations des prix de l'électricité. Ça se passe depuis 2022, la guerre en Ukraine, mais encore plus depuis plus récemment avec l'Iran, la flambée des prix, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, grâce au solaire, mais pas que, en fait, c'est plus que des panneaux solaires. Le monde du solaire, maintenant, il est de plus en plus en train de s'orienter vers des batteries qui nous permettent de stocker de l'électricité, vers du pilotage qui permet par exemple de dire je veux que mon ballon d'eau chaude fonctionne uniquement grâce au surplus solaire, c'est-à-dire ce que je produis sur mon toit mais je consomme pas directement dans ma maison. Et grâce à tout cette technologie avec les batteries et le pilotage, en fait on arrive à tirer les taux d'autoconsommation au maximum et à retrouver de la rentabilité, mais aussi de la sérénité sur sa facture d'électricité à la fin du mois.
Vous parlez de rentabilité, Romain, c'est important. Et vous disiez qu'effectivement, on entend dans les médias, y compris le mien, hein, je vais le dire, hein, que c'est pas très aidé, hein, les panneaux solaires. Et c'est vrai, on va pas se mentir, Romain. Donc le sujet, c'est de savoir à quel moment ça devient rentable. Est-ce que c'est parce qu'on a changé nos usages de ces panneaux solaires que c'est devenu rentable? Est-ce que c'est parce que les prix baissent? Pour quelles raisons, en fait, c'est plus rentable aujourd'hui que ça ne l'était hier et que les Français l'ont bien compris, au-delà des enjeux géopolitiques qu'on entend évidemment, hein, forcément, avec la flambée des coûts de l'énergie, on a plus tendance à faire attention à nos factures.
Alors, il y a plusieurs sujets. D'abord, en effet, les aides, c'est terminé, il ne faut plus compter dessus. Mais finalement, ces aides, elles ont été supprimées en cohérence avec le matériel dont le prix, lui, baisse. Donc ça, c'est le premier élément. C'est que le prix du matériel est en chute libre depuis 10 ans. Et maintenant, un panneau solaire, une batterie, c'est presque une commodité. Alors, les batteries,
ça... Romain, je peux pas vous laisser dire que c'est une commodité. Ça coûte combien? Redites-nous quand même les tarifs. Hein.
C'est l'autre point dont je voulais parler, c'est que l'essentiel pour avoir de la rentabilité, c'est le juste dimensionnement de la centrale solaire. C'est-à-dire que si vous êtes dans une maison qui consomme... 10 mégawattheures, donc 10 000 kilowattheures à l'année, vous allez typiquement positionner aujourd'hui une centrale qui est autour de 6 kilos. Une centrale de 6 kilos, ça coûte à peu près 10 000 euros TTC. Là-dessus, il faut pas imaginer d'aide publique. Néanmoins, on arrive à avoir des retours sur investissement en 8 ans, à peu près entre 8 et 10 ans. Mais ce qui veut dire que passé cette période, passé les 8 ans, en fait, on a l'électricité quasiment gratuite, puisqu'avec des batteries, on arrive à avoir des taux d'autoconsommation à 80-85%. Et à partir de là, on profite simplement du soleil.
Dans les 10 000 euros, vous avez mis le coût de la batterie aussi, Romain ?
Oui, alors les batteries, comme je vous disais, elles sont vraiment en train de. Le prix des batteries sont vraiment en train de diminuer à fond. Aujourd'hui, une batterie, il faut compter à peu près entre 300 et 400 euros du kilowattheure. Donc, typiquement, si vous posez 10 kilowattheures de batterie, comptez entre 3 000 et 4 000 euros voilà, TTC. Ce qui est, ça a été divisé par deux en l'espace de 5 ans.
Juste une dernière question, Romain. J'avais pas l'intention au début de vous la poser, mais quand même, j'en vois de plus en plus autour de moi des gens qui statent pour l'installation d'une vraie, justement, centrale avec la batterie qui va bien, le toit en panneau, machin, etc. Et qui tentent le plug and play, donc un seul ou deux panneaux solaires qui branchent comme ça et bim, en consommation immédiate, en fait. Est-ce que vous en voyez de plus en plus? Est-ce que c'est un premier pas, justement, vers une installation plus complète, plus coûteuse, mais plus complète?
C'est exactement ça. Nous, on est super friands des kits comme ça, plug and play, parce que ça permet de se rendre compte que en branchant un panneau solaire à une prise électrique, on arrive à couvrir, alors pas grand-chose, mais les consommations, par exemple, de son lave-linge toute l'année. Et c'est un premier pas pour dire, c'est super ludique, on arrive à voir avec des applications combien est-ce qu'on économise par rapport à combien on a investi, et on se rend compte que c'est rentable. Et du coup, c'est un premier pas pour investir dans une installation plus complète où on va pouvoir faire un peu plus de choses vers l'électrification de la maison, parce que c'est ça aussi qui permet le solaire, c'est que le solaire aussi c'est une première étape pour se dire progressivement je vais changer ma chaudière gaz en pompe à chaleur, je vais arrêter de dépenser des milliers d'euros en essence chaque année, en achetant une voiture électrique, on est capable de poser des bornes de recharge, là encore les bornes de recharge ça se pilote, on peut dire je veux que ma voiture, puisque après tout on est dimanche et que je ne vais pas en faire l'usage aujourd'hui, je veux qu'elle se charge uniquement avec le surplus d'électricité solaire que je produis et que je consomme pas directement chez moi. Tout ça c'est possible, la technologie est en train vraiment de faire des bons spectaculaires et ça se voit dans les chiffres puisque comme je vous disais sur le terrain, nos clients le constatent tous les jours.
Merci Romain pour votre témoignage. Romain Martin, cofondateur de Murphy Solaire, pour nous parler, ça y est, du début d'appétit des Français pour les panneaux solaires et pour récupérer un peu d'autonomie en termes d'énergie. Ça fait du bien et je pense que ça a pu faire du bien à certains d'entre eux qui se sont lancés pendant l'été. Allez, c'est l'heure du débat tout de suite.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et de super agents immobiliers à mes côtés, en l'occurrence Brice Cardy, le patron du réseau L'Adresse. Bonjour Brice.
Bonjour Marie.
Et Jordan Frarier, le président de Foncia Transactions. Bonjour Jordan.
Bonjour Marie, bonjour Brice.
Bonjour Jordan.
Bon, ça y est, c'est la rentrée, on va pas se cacher, les dernières semaines, les derniers mois n'ont pas été simples. Il nous reste quoi, 4 mois pour finir l'année? J'ai envie de prendre le pouls de vos secteurs, quoi. Je vous pose la question, vous la sentez comment cette fin d'année, messieurs?
Moi je la sens plutôt bien.
C'est l'optimisme de l'agent immobilier ou
oui,
c'est une réalité?
Oui, je le modère, mais je pense que la rentrée va être bonne. Déjà, on a eu un été qui a respecté ses fondamentaux, à savoir moins de clients, mais des clients qui sont motivés. Généralement, ouais. Quand on part pas en vacances et qu'on visite dans les zones urbaines, c'est pas pour rien. Donc, ouais. Des bons clients qui ont pris le soin de valider leur dossier, comme on le conseille souvent ici sur ce plateau, auprès de leur courtier ou de leur banque.
Ouais.
Bref, un été clairement qui a été à peu près sur les mêmes volumes que l'an dernier à la même période. Et la rentrée, par rapport à plein de choses aujourd'hui qui sont plutôt dans le bon sens,
ouais.
Dispositif Jean Brun, donc il n'y a plus qu'à, il faut juste que nos élus prennent les bonnes dispositions et que ça prenne, mais les banques sont là, les clients ont envie, comme on le sait depuis des années, les Français sont très, très attachés au fait d'être propriétaires, donc moi la rentrée je la vois sous un bon signe.
Jordan, optimiste, pessimiste?
Non, plutôt optimiste, parce que septembre-octobre à minima, c'est traditionnellement des bons mois, en tout cas des mois pendant lesquels les Français se reconcentrent.
Oui, pour ceux qui reviennent de vacances et qui n'avaient pas fait le process pendant.
Ouais, on parle souvent du printemps de l'immobilier parce que il y a une saisonnalité.
Ah bah là, on n'en a pas eu cette année, hein, on va pas se mentir.
Qu'on a moins eu cette année, mais qui est souvent marqué par les déménagements, emménagements des familles, parce que rentrée scolaire et autres. Faut pas oublier que septembre-octobre, c'est un très bon moment pour des acquisitions de résidences principales, peut-être même encore de résidences secondaires, investissement locatif. Je suis d'accord avec Brice. Ça, on verra quand est-ce que ça repart. Mais oui, ça peut être septembre-octobre à minima une bonne période parce que on a, comme le disait Brice, des banques, pas toutes, mais certaines, qui vont encore accompagner, faire l'effort, avant peut-être, ça on verra, on n'a pas de boule de cristal, une période un petit peu plus attentiste avant les présidentielles.
Ouais, il y a Alban en régie qui me disait, qui est toujours partie prenante de cette émission, qui me disait, mais en fait, c'est plutôt la période pour la location. Mais en réalité, non, pas forcément que la location. Vous avez aussi ces déménagements de famille, aussi pour les, on ne parle pas d'étudiants, mais d'enfants, qui changent aussi. C'est ça, ce moment un peu entre, allez, j'ai envie de dire, fin de printemps, début d'été, puis rentrée de septembre, c'est toujours une espèce de petit rush, là.
En fait, traditionnellement, si Brice partage, on dit que les Français se retrouvent aussi pendant les vacances et que c'est une occasion pour les couples de se parler un petit peu plus que le reste de l'année et de prendre des grandes décisions. Donc
ah oui, vous voulez dire que par contre, en septembre, on va avoir toutes les séparations, là?
Alors, non, parce que grande décision, ça ne veut pas dire forcément des séparations et des divorces.
Non, il y a aussi faire des enfants.
Il y a aussi les acquisitions immobilières.
Oui, non, mais je posais la question aussi quand même, parce qu'il y a aussi ces sujets-là, parce que la décohabitation, c'est un vrai sujet aussi sur votre secteur de l'immobilier, en fait.
Ah ben complètement. Après, pour revenir sur l'histoire des déménagements, généralement, et on l'a connu au printemps, même si ça a été un peu compliqué, on en a déjà parlé, avec tout ce qu'on a vécu dans le contexte national et géopolitique international, généralement, les Français anticipent.
Ouais,
ça va dépendre de l'âge de leurs enfants. Quand les enfants sont scolarisés, généralement, ils se débrouillent pour pouvoir anticiper leur acquisition et organiser leur déménagement, plus généralement toujours un petit coup de peinture, un petit coup de pinceau avant la rentrée.
Pour que, à l'école,
voilà, exactement. Maintenant, il est vrai qu'il y a des grandes décisions parfois qui se prennent l'été. Généralement, vous savez, les couples, généralement, qui sont en difficulté, généralement, dans leur couple, ils partent souvent en vacances. C'est souvent le dernier essai, on va dire. Soit les vacances se passent bien, puis on repart pour une année, soit finalement, on n'a plus rien à se dire.
Et vous croisez les doigts en vous disant ça va pas du tout.
Non, nous, on préfère contribuer et accompagner les Français dans une phase de bonheur,
de construction avec
des familles qui grandissent plutôt que l'inverse. Mais en effet, il peut y avoir toutes sortes de décisions qui sont l'objet de réflexion après les vacances.
Bon, on le disait, on n'a pas eu de vrai printemps de l'immobilier, on a eu un été pas si pourri que ça, à part côté température, on est d'accord, mais enfin, on a eu un été pas si pourri que ça sur le marché de l'immobilier. La question, c'est, est-ce que cette rentrée et ces derniers mois-là vont même finalement être plus dynamiques que d'ordinaire? Je vous explique, on sait que l'année prochaine, on a une élection présidentielle. Traditionnellement, quelles que soient les raisons d'ailleurs, mais traditionnellement, on a un petit creux où on va dire globalement beaucoup d'attentisme du côté des acheteurs, quels qu'ils soient et quel que soit leur profil au moment d'une élection présidentielle. Il va falloir arrêter de toucher votre micro. Merci Brice, parce que vous faites du bruit. Est-ce que là, justement, à l'aube de cette élection présidentielle, on va pas avoir un petit sursaut de la part de gens qui disent « Oulala, vaut mieux le faire maintenant parce qu'on sait jamais à quelle sauce on va être mangé l'année prochaine ».
Bah, deux choses, Marie. La première, c'est que l'année dernière, si on prend comme point de référence, je le disais, septembre-octobre, c'est une période pendant laquelle les Français se remettent très sérieusement à l'immobilier.
Ouais.
Là, cette année, il y a effectivement ce côté, c'est un peu la dernière fenêtre de tir, ou peut-être la dernière fenêtre de tir, de profiter aussi de taux. On parlait des banques avec Brice, qui sont encore pour certaines très accompagnantes.
Ouais.
Il y a quand même cette menace de remonter des taux l'année prochaine.
Ouais.
Donc, c'est une très bonne fenêtre de tir pour les clients qui ont un vrai projet. Brice parlait d'un peu moins de clients cette année, mais de mieux de clients. Je partage totalement. Et donc, c'est une très bonne fenêtre de tir sur septembre-octobre. La deuxième chose, c'est que sur septembre-octobre, comme jusqu'à la fin de l'année, les présidentielles, pour moi, c'est plus un marqueur ou un risque d'attentisme pour ceux qui vont être sur des projets d'acquisition de résidences secondaires, d'investissement locatif,
ouais.
Parce que il y a la dimension fiscale d'un changement de gouvernement, de ce que ça pourrait modifier. Quand on est sur un projet d'acquisition du toit de la famille, du foyer de la famille.
Ouais, quand c'est une résidence principale, il y a un vrai sujet de vie, quoi.
Je pense que quand on en a envie en septembre-octobre, c'est surtout le moment d'y aller, quoi.
Y aller, alors, je rejoins complètement Jordan sur l'histoire des banques. Les banques, ça va dépendre aussi des objectifs.
De production, ouais.
Exactement, c'est
ouais.
Qu'en fait, moi, je ne cesse de dire, et je pense que les chiffres me donnent pas tort, ce sont les banques qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps au niveau des volumes de ventes.
Évidemment.
Faut rappeler que 8 ventes sur 10 passent par la case bancaire.
Ouais.
Si vous prenez, si vous enlevez le littoral sur lequel il y a plus d'acquisitions paiement comptant.
De résidences secondaires.
Bah, finalement,
aussi,
dans les zones, dans les grandes agglos, c'est plutôt 9 qui passent sur 10 qui passent par la case bancaire. Donc aujourd'hui, au-delà des taux, alors les taux, là, je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est que la bonne nouvelle, et les plus jeunes, dont souvent les primo-accédants nous l'ont.
Les jeunes primo,
les fameux qui font qu'un marché est dynamique ou pas, nous ont confirmé qu'ils sont convaincus que demain ne sera pas mieux qu'aujourd'hui, que ce qui est pris vaut mieux, enfin, ce qui est pris n'est plus à prendre,
un tiers vaut mieux que deux,
voilà,
tu l'auras.
Ça, clairement, on l'a vu cet été, Aujourd'hui, on a vraiment des acquéreurs qui sont pas du tout sûrs que les taux vont baisser, voire même augmenter. Donc, en gros, clairement.
Oui, ce que disait Jordan, c'est qu'il y a plein de conjonctions de faits qui font, vaut mieux y aller maintenant plutôt que d'attendre.
Exactement. Donc là, la suite, concernant l'octroi des prêts va dépendre
des banques,
celles qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs et les autres. Donc
après, il y a quand même un sujet au niveau des crédits et on en parlera cette semaine. On va dédier une émission aussi là-dessus parce que c'est toujours ce sujet-là. Et vous le disiez, c'est l'alpha et l'oméga du secteur quand même. On a quand même aussi un problème, je pense, psychologique de la part de beaucoup d'acquéreurs convaincus aujourd'hui que les taux affichés, c'est les taux qu'ils vont réellement obtenir. Et donc quelque part, quand bien même on a des banques qui font des opérations commerciales, en veux-tu, en voilà, depuis quoi, 2-3 mois là, ils n'ont pas conscience qu'en cumulant tous ces petits prêts bonifiés, etc., ils arrivent à obtenir des conditions qui sont quand même extrêmement favorables historiquement. Est-ce que vous aussi, en tant qu'agent immobilier, vous faites ce boulot de pédagogie parce que c'est aussi ça qu'il faut expliquer aux gens qui parfois s'auto-censurent et se disent moi je peux pas dans un tel contexte.
Alors on le fait complètement, vous savez que j'ai la chance d'être accompagné par quelqu'un qui est spécialiste justement sur la partie bancaire, donc on a une émission mensuelle nous tous les mois, enfin, forcément, qui rappelle toutes les conditions d'octroi. Et ouais, il y a une autre chose également, parler, c'est la temporalité. C'est-à-dire que, rappelons à celles et ceux qui nous écoutent, que pour pouvoir obtenir un taux, faut-il déjà avoir signé soit une promesse de vente, soit un compromis de vente. Et là où on est très pédagogue, c'est que on s'est engagé, nous, le réseau L'Adresse, à être le premier réseau, à être 100% rédacteur de nos compromis. On essaie d'expliquer tous les avantages à nos clients, à signer un compromis de vente en agence. Nous, on prend des engagements en fonction du type d'acquisition, de pouvoir nous signer sous 72 heures. A contrario, alors je veux pas du tout faire la guerre auprès des notaires, mais on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'embouteillages chez les notaires. Et je vous le dis, nous, on a nos clients, on a des clients qui ont eu des taux moins avantageux, notamment par rapport au fait qu'il y a des banques qui parfois font, il y a des taux qui font un peu le yo-yo, ouais, et parfois ça se joue à très peu de choses. Donc clairement, oui, on a beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement sur la capacité que nos collaborateurs et collaboratrices doivent vraiment maîtriser tout l'impact que peut avoir un taux parfois 0,20.
Ouais,
rappelons-le, vous n'êtes plus finançable, ou vous allez avoir des taux avec un impact global qui va être important. Donc non, il y a vraiment une pédagogie au sein de notre réseau.
Jordan, vous constatez cette forme de frilosité de la part d'acquéreurs qui savent pas trop à quelle sauce bancaires ils vont être mangés?
Non, pas tant que ça. On a le plaisir de se rencontrer aujourd'hui avec Brice et je vois qu'on partage déjà plein de choses parce qu'on a aussi cette pratique-là chez Foncia de signer les compromis en agence, exactement pour les raisons que Brice a évoquées.
Ouais.
Ça permet de faire gagner beaucoup de temps aux clients. Et sur le financement, au-delà du compromis qui marque, comme le rappelait Brice, le vrai déclencheur pour aller chercher, déjà par anticipation, on voit que les clients aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce que ça pouvait être il y a 10 ou 20 ans, sont déjà très éduqués.
Donc, ouais,
9 fois sur 10, ils ont déjà fait les démarches
d'aller voir soit leur banque, soit un courtier pour savoir quelles étaient leurs capacités aussi.
Exactement. Exactement. Et je fais pas la promotion des uns ou le détracteur des autres, mais
bien sûr,
dans le contexte, je pense que c'est effectivement très bien de s'appuyer sur des courtiers qui vont accompagner dans l'offre d'aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Et puis là, on parle beaucoup des acquéreurs, mais parlons aussi des vendeurs. Aujourd'hui, on est vendeur. On sait à peu près à quel prix on peut raisonnablement vendre, à condition de savoir bien se
positionner.
Mais on
va en parler des prix, Jordan.
Très bien, parce que si j'étais vendeur aujourd'hui, j'essaierais effectivement de trouver une solution dans les 60-90 prochains jours, plutôt que d'espérer peut-être quelques euros de plus dans 6 mois. Je suis pas sûr que tout le monde les obtiendra.
Parce que c'est ça le sujet. Vous êtes quand même tous les deux d'accord pour dire que effectivement, on a quand même des conditions bancaires qui sont pas si pourries que ça, contrairement à ce qu'on peut entendre de ci de là, parce qu'il y a des prêts à taux bonifiés, parce qu'il y a quand même un accueil très particulier de banques qui veulent produire du crédit. L'autre élément quand même dans la transaction immobilière, c'est le crédit, mais c'est aussi le prix. Et le prix aujourd'hui, est-ce qu'il s'est assagi? Parce qu'il y a eu un moment donné où on a eu une hausse des taux, je pense au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine et de la crise inflationniste de 2022-23. On a eu un moment où on a des taux qui ont augmenté très vite, très fort, et des prix qui n'ont pas bougé, qui ont mis beaucoup de temps à corriger. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'adaptation plus rapide, messieurs? Est-ce que les prix sont plutôt orientés à la hausse, à la baisse? Est-ce qu'ils stagnent?
Alors, pour ma part, ils ont plutôt une tendance depuis le début de l'année à stagner. Et également le délai moyen de vente.
À s'allonger?
Bah non,
à stagner. Non, pas chez vous,
non,
à stagner aussi.
Alors, on va pas mentir, on s'attendait, compte tenu encore une fois du marché et du printemps qu'on a vécu, à peut-être voir un début de baisse, même légère, sur les prix et peut-être un rallongement des délais. Pour le moment, on constate pas. Ce qu'on constate, c'est une augmentation des stocks. Et donc, la plus grande facilité de le traduire, c'est que le vendeur qui se positionne bien aujourd'hui, il continue de vendre dans des bonnes conditions et de prix et de délais. Celui qui est un peu trop optimiste, a priori, reste sur le carreau.
Trop gourmand. Et de votre côté, Brice?
Non, je suis assez d'accord avec Sadi Jordan. En effet, il y a un effet plateau qui est assez rare.
Ouais.
Moi, je suis assez convaincu, depuis qu'on a la capacité à analyser le marché, qu'on est soit sur un marché haussier, soit un marché baissier. Maintenant, par exemple, vous savez, l'adresse est une coopérative, donc moi, j'ai double casquette. J'ai une dizaine d'agences en propre. Par exemple, si je suis à Paris, sur mes 10 agents, j'en ai qui sont en région, du côté d'Evreux.
Et Paris, là.
Ben oui, mais justement, Paris, on a un regain d'activité sur Paris. On a plus d'acquéreurs. On a pratiquement 2-3 fois plus d'acquéreurs que dans les autres agences, notamment Montreuil, qui pour moi est un peu le 21e arrondissement de Paris. Ouais. Et pourquoi? Ben parce que finalement, Paris, les prix ont beaucoup baissé ces 12 derniers mois. Et on a justement, on en revient encore.
L'ajustement,
les planètes qui sont alignées et où tout d'un coup, il y a un regain d'activité. Donc finalement, cet effet plateau, on peut le constater sur 12 mois glissants. On va parler de quoi? On va parler de baisse ou d'augmentation en fonction des régions, en fonction de la typologie des biens collectifs ou maisons individuelles de 0,1, 0,2. Globalement, il y a deux types de vendeurs. Il y a celui qui a un vrai projet de vente, on va dire qu'un aléa de vente, mutation séparation, professionnelle, séparation pour revenir
nouvel
sur ce
enfant
que vous
à venir.
Exactement.
Non, mais non, vous voyez, je ne vois pas que la séparation.
Ouais. Voilà. Et clairement, celui-ci, généralement, il va être très à l'écoute du marché, grâce à des médias comme
ajuster.
Le vôtre. Et il va, et c'est le conseil, peut-être le conseil le plus important que j'ai à transmettre dans cette émission, c'est soyez à l'écoute d'un professionnel de l'immobilier. S'il écoute le marché, on va avoir parfois, notamment Paris, des offres au prix, en fonction du type de bien et si le prix a été respecté par rapport à l'estimation, on va avoir des offres au prix. En moyenne, on a quand même encore aujourd'hui sur des biens dont le délai est inférieur à 3 mois, on a encore des négociations entre 3 et 5%.
Ouais.
Ça, c'est le premier type de vendeur, c'est celui qui est à l'écoute, qui passe par un professionnel et qui prend l'intérêt de passer par un professionnel, donc l'écoute. Et puis il y a l'autre. L'autre qui a tenté sa chance, l'autre qui a peut-être moins d'obligations ou dans le côté temporel, pas forcément
moins d'urgence,
plus court. Et celui-ci, généralement, c'est pas le bon choix parce que vous savez, les acquéreurs aujourd'hui, ils connaissent beaucoup de choses, ils voient tout. Ils savent exactement quand est-ce qu'un bien arrive sur le marché, quand est-ce qu'il baisse, quand est-ce qu'il part, quand est-ce qu'il revient, etc. Et vous savez, il y a une expression qui dit qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne impression. C'est pareil quand on met en vente son bien. Et là, ce type de vendeur-là, généralement, c'est double perte.
Ouais, parce qu'il va devoir décoter encore plus fort au moment où il en aura marre d'attendre.
Ah, bah là, le message, je le fais passer clairement. Un bien qui a passé le cap des 6 mois, il faut faire double impact. Mmh. Il faut baisser en moyenne le prix pour qu'il puisse susciter un minimum d'intérêt, pour qu'on puisse le faire visiter. C'est 10%.
Waouh.
10%. Et généralement, malgré ces 10%, derrière, faut s'attendre encore à une négociation de 5%. Donc ça, c'est vraiment pour que celles et ceux qui nous écoutent
soyez vigilants, quoi. Et d'autant qu'en plus, effectivement, l'autre élément qui est les taux d'intérêt, pour l'instant, en tout cas à ce stade, on voit pas de baisse importante arriver. Donc, quand bien même on devrait stagner autour de 3,5% sur 20 ans à peu de choses près, globalement, c'est pas forcément...
Le vrai sujet, je sais pas si on aura le temps d'en parler, c'est les vendeurs qui ont acquis leurs biens entre 2020.
Les taux à 1% et des prix stratosphériques.
Exactement. Ouais. Alors, cela, je peux vous dire que c'est très compliqué. Là, vous parliez tout à l'heure de pédagogie. Je peux vous dire que là, il faut être plus que pédagogue pour expliquer calmement les choses.
Mais on leur rappelle, n'oubliez pas, si vous êtes dans ce cas-là et que vous allez aussi acheter moins cher,
bien sûr.
Hein, donc, voilà. Et oui, et c'était pas là. Plus loin normalité, c'était bien la normalité en un seul mot, que des taux à 1%. Bon, il nous reste que 4 minutes, mais quand même un sujet parce que ça fait partie du prix et de la valorisation de nos patrimoines. On a beaucoup parlé de la valeur verte liée à nos chères et tendres passoires thermiques. On a fait connaissance depuis quelques années, mais visiblement les pouvoirs publics que cette année, des bouilloires thermiques. Merci aux canicules. Est-ce que vous voyez, vous, sur ce marché de l'immobilier, des choses qui sont un tout petit peu en train de changer sur la valorisation du patrimoine?
Ça commence et vous le savez en plus chez Foncia, il y a un parc qui est en rénovation au niveau des copropriétés et des biens qu'on a en investissement locatif avec nos propriétaires bailleurs. Donc c'est un sujet qui est très embarqué et qu'on commence à voir petit à petit se traduire sur l'activité de la transaction. Avec forcément avec l'été qu'on vient de passer, là sur ce début de rentrée, un petit point d'attention un peu plus particulier.
Ouais, du point de vue des acquéreurs, ils posent des questions. J'imagine. Vous avez combien cet été chez vous, non?
Exactement. C'est ouais, exactement ouais. ça. Et il faisait combien? Et est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Donc oui, on voit que les conditions météorologiques ont rajouté le petit curseur sur l'énergie.
Même chose, Brice?
Ouais, pareil. Et puis je rebondis sur ce que vient de dire Jordan. Je vous l'avais dit plusieurs fois que le vrai sujet, l'espèce de bombe à retardement qu'on avait, c'était la rénovation des copropriétés. Ouais. Il est vrai que jusqu'à présent, le DPE, le fameux DPE, les Français.
Diagnostic de performance énergétique.
Exactement.
Marie Lexique.
Faites très bien.
Ouais,
hein.
Je sais.
Ce DPE, c'était plus un sujet par rapport à nos cultures, à nos coutumes. C'était plus le froid, la
chaud,
triple couette,
ouais,
etc. Ouais,
bien sûr.
À travers l'été qu'on a passé et où tout le monde s'accorde à dire que je pense que c'est. Ça va certainement se renouveler les années à venir. Deux choses. Le DPE individuel, les Français ont su s'y adapter. Donc la fameuse lettre, elle est finalement moins dramatique. Et puis surtout avec ce qu'on attend dans les décisions.
Ouais, mais l'allègement du calendrier, c'est ça?
L'allègement du calendrier. Non, mais c'est surtout qu'avant, c'était carrément un empêcheur d'acheter. Aujourd'hui, une fois de plus, on s'y est habitué. On a autour de nous pas mal de gens qui ont franchi le cap et qui se sont adaptés, qui ont trouvé des solutions. Non, le vrai sujet, vous l'avez clairement mentionné, c'est la chaleur. Qui est le vrai sujet, mais qu'on avait finalement en tant que particulier mal perçu, c'est la chaleur. Et aujourd'hui, au-delà de la lettre, c'est la capacité à pouvoir se rafraîchir en pouvant installer ou pas une climatisation.
Ouais, ouais.
Donc, à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en maison individuelle, occupez-vous de tout ça à partir de la rentrée, justement, parce que c'est justement, généralement, à ce moment-là, que tous ceux qui sont dans la climatisation sont moins chargés.
Mais oui, c'est hyper intéressant, mais on va refaire des sujets sur la réno, mais c'est hyper intéressant sur cette saisonnalité, parce que là, on va avoir tout le monde qui va commencer à entamer ses travaux pour l'hiver. Et donc là, vous allez peut-être aussi même avoir des artisans pas dispo pour ce genre de travaux. Là, cet été, quand vous avez tous voulu faire installer votre pack RR pour avoir la réversibilité, donc la clim, il n'y avait plus personne parce qu'effectivement il y avait une surdemande, donc peut-être être à contre-courant des saisons, ouais,
toujours.
Ça peut être sale, quoi.
Mais ce qui est certain, c'est qu'on parlait de valorisation. Je sais que vous adorez quand on parle de prix, donc là on vous a un peu déçu avec Jordan, parce qu'on va parler de l'effet plateau, il ne va pas se passer grand-chose dans les mois à venir, mais clairement, je vous le dis, un bien climatisé n'aura pas du tout la même valeur que le même bien sans la clim. Ça, c'est clair que ça va devenir une obsession, parce qu'on l'a bien vu, passer une certaine température, on peut pas se reposer, on peut pas recharger les accus, et ça devient très compliqué pour gérer ses familles.
Et le réchauffement climatique n'est pas prêt, malheureusement, de se terminer. Juste d'un mot, il nous reste 50 secondes, messieurs, je veux votre perspective fin d'année, volume de vente, quelle évolution, et évolution des prix.
Je laisse Jordan commencer.
Allez,
avec plaisir.
Allez,
avec
Jordan,
plaisir.
On y va.
Volume de vente, la question c'est toujours pareil. Est-ce qu'on parle des compromis de vente qu'on évoquait tout à l'heure? Est-ce qu'on parle des actes notariés? Bon, bref, allez, on va faire une année entre moins 5 et moins 10 pour moi, avec des prix qui vont peut-être légèrement fléchir, comme le disait Brice tout à l'heure, mais on va se parler de quoi? De moins 1%.
D'accord. Brice?
Je pense que je vais être un petit peu plus optimiste. Je pense qu'en termes de volume, on va être. Alors ça dépend, toujours pareil, hein, si on compare sur les 12 mois glissants maintenant.
Non, vous n'allez pas.
On va parler en nombre. On va dire qu'en nombre, on va être entre 900 et 950.
On était à 950 l'an dernier.
Voilà, donc on va être à iso-périmètre.
Ouais.
Et rappeler que 900-950 000, c'est largement suffisant pour que tout le monde s'y retrouve. Bien évidemment, les Françaises et les Français qui ont besoin de se loger et tous les acteurs qui contribuent à cette branche. Rappelons, pour une année.
Rappelons
qu'une année triste comme 2000, rappelons qu'en 2007-2008 on était à 500 000.
Oui, d'accord.
Non, pour dire que les chiffres sont bons, restons optimistes.
Mais
950 000 transactions pour
ce
moi.
Ce sera génial.
Et en termes de
même
prix,
900, ça sera génial.
Tout va dépendre
oui,
des taux.
On y va.
Si les taux, si les... c'est fini.
Mais oui, c'est fini.
Ah bah, je sais pas, vous me demandez le.
Non.
Très bien.
C'est
bien,
bon.
Pardon.
Les prix, on a dit, ils vont légèrement baisser.
Ça va dépendre des taux. Si les taux restent.
Bon, forcément, ça dépend.
On va être sur un effet plateau.
Non, parce que ce qu'ils savent pas, mes invités en plateau, c'est qu'il y a la musique. Moi, je l'entends dans l'oreillette, mais eux ne l'entendent pas. Donc, il y a la musique de la fin depuis à peu près 1 minute 30 et Alban qui rugit en régie.
Désolé.
Allez, on y va. Je vous remercie, messieurs. C'était top. Et vous reviendrez évidemment au plateau. Brice Cardy, le président du réseau L'Adresse, et Jordan Frarier, le président de Foncia Transactions, avec nous dans Les Experts de l'Immo sur BFM Business.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.